Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
À suivre sur Europe Soir Weekend, la France brûle, les températures caniculaires se multiplient et les pompiers n'ont plus les moyens d'affronter. Dans un instant, Éric Brocardi sera mon invité tout de suite après cela. Il est 19h. Et vous êtes sur Europe 1. Bonsoir François-Xavier Lambert.
Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir de bonnes nouvelles sur le front des incendies.
Les feux sont désormais fixés en Gironde et en Aveyron. Grâce à la pluie, des milliers de personnes évacuées vont pouvoir regagner leur domicile. Nous serons en direct de Landiras dans un instant. Dans ce journal également, tension maximale à nouveau entre la Chine et Taïwan. Des bateaux militaires chinois patrouillent au large de l'île après l'arrivée à Taipei d'une délégation de parlementaires américains. L'appel de détresse du maire de Zaporijjia en Ukraine, selon lui, les risques d'un accident nucléaire augmente de jour en jour. Et puis les sports en Ligue 1, Nice et Strasbourg se sont neutralisés un but partout. Ce soir, Brest reçoit Marseille à partir de 20h45.
Un œil sur la météo avec vous, Anthony Kazmarek.
L'alerte aux orages est levée ce soir dans la vallée du Rhône. Demain, retour au calme et encore quelques averses orageuses dans un large quart nord-est. Les températures partout raisonnables, 22 à 29 degrés et encore 30 à 33 autour de la Méditerranée.
Europe 1. La pluie a donc été une alliée décisive pour les pompiers en Gironde.
C'est en effet la bonne nouvelle ce soir. Le feu est enfin fixé dans la région de Landiras. Après plusieurs jours de lutte, les soldats du feu ont pu bénéficier des précipitations sur la région. Les pompiers vont désormais rester mobilisés pour éviter l'apparition de nouveaux foyers. On retrouve en direct sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Chloé Lagadou. Bonsoir Chloé.
Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous.
Le soulagement est palpable autour de vous ce soir.
Eh bien oui, là ce soir, on sent vraiment le soulagement chez les pompiers, aussi bien français qu'européens. Tout le monde a le sourire. Certains se servent une bière et d'autres, comme les pompiers allemands, chantent à tue-tête autour d'une table. Et les soldats du feu français ne sont pas les seuls à souffler un peu ce soir. Il y a aussi les 8000 habitants évacués qui peuvent rentrer chez eux dès maintenant. Alors pour l'occasion, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic, a tenu à remercier chaleureusement les pompiers.
Nous sommes évidemment très satisfaits. C'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir bénéficier d'autant de mobilisation, autant de courage et autant d'envie d'y arriver. Et la nouvelle d'un feu fixé est toujours une bonne nouvelle. Par contre, je peux vous assurer que la prudence et l'envie d'aller au bout, elle est permanente.
Et oui, le sous-préfet appelle tout de même à la prudence. Il est bien sûr toujours interdit de se rendre dans les zones où le feu n'est toujours pas éteint.
Merci beaucoup Chloé Lagadou, envoyée spéciale d'Europe 1 en Gironde. Autre bonne nouvelle ce soir, l'incendie est aussi fixé en Aveyron. C'est ce qu'annonce la préfecture alors que le feu a détruit plus de 1300 hectares. Un millier de personnes évacuées ont été autorisées à regagner leur logement ou leur lieu de vacances. Écoutez les précisions du commandant Stéphane Coulon, porte-parole des pompiers de l'Aveyron.
La situation est, on va dire, une évolution favorable. La pluie est arrivée, alors pas forcément sur tout le secteur. En tout cas, c'est sous forme orageuse. Donc, en fait, voilà, il y a des pluies plus ou moins marquées sur le secteur, mais ça a certainement contribué à un retour à la normale. Ouais. Le feu est dans une situation beaucoup plus favorable. On désengage des moyens matériels et humains dès ce soir.
Stéphane Coulon, porte-parole des pompiers de l'Aveyron. Il était joint par Nina Droff. Et puis, toujours sur le front des incendies dans le Jura, plus de 1050 hectares de forêt ont été réduits en cendres cette semaine, selon la préfecture. Les pompiers peuvent toutefois compter sur l'aide, là encore, de la pluie tombée ces dernières heures dans la région.
Et la lutte contre les incendies sera justement l'objet d'une grande concertation autour du président français.
Oui, Emmanuel Macron réunira l'ensemble des acteurs des départements concernés une fois les feux éteints. La date n'a pas encore été précisée par l'Élysée. Et cette réunion sera aussi l'occasion d'évoquer les conséquences des incendies dans les forêts touchées. Pour les acteurs du monde forestier, il faut reboiser rapidement ces zones. Concrètement, Solène Leroux, comment est-ce que cela fonctionne ?
Tout d'abord, il faut définir s'il est possible de valoriser le bois brûlé en le vendant pour financer en partie la nouvelle forêt, car le reboisement a un coût entre 4 et 5 000 euros par hectare dans l'Hérault, selon Francis Cross, président des communes forestières d'Occitanie.
C'est très variable. Il y a la protection des petits plants, il faut mettre des filets. Il y a le prix également des essences à planter.
C'est l'étape suivante, bien sélectionner sélectionner les espèces à replanter, idéalement 4 ou 5 essences différentes entre résineux et feuillus, par exemple des cèdres, des pins ou encore des hêtres ou des châtaigniers.
Et puis on espère qu'au bout de 30 ans, 40 ans, voire au-delà, l'évolution du climat fera qu'il y aura eu peut-être deux essences qui seront toujours présentes sur ces territoires.
Un choix déterminant pour l'écosystème forestier, explique Annelise Avril, responsable de la communication des projets forestiers chez Reforest Action.
L'objectif, c'est vraiment de planter des arbres qui vont être à la fois adaptés au climat de demain, dans un contexte de changement climatique, mais aussi aux conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire aux conditions du sol et du climat spécifique à la région où se situe la parcelle.
Une diversité nécessaire alors que près de la moitié de la forêt française est constituée d'arbres d'une seule essence, selon l'inventaire forestier national. Pour qu'une forêt retrouve son aspect pré-incendie, il faut compter entre 20 et 30 ans.
Les explications de Solène Leroux pour Europe 1.
Allez, on marque une petite pause dans le journal. Juste après la pub, nous parlerons de l'arrivée à Taïwan d'une délégation d'élus américains. La situation est à nouveau très tendue avec la Chine. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h. Jeanne Baron.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Courrier international présente l'Atlas des énergies de demain. La guerre en Ukraine et les événements climatiques révèlent les failles de notre système énergétique. Quelles seront les solutions durables des 30 prochaines années? Les investissements des États, cartes, infographies et bien sûr l'œil de la presse étrangère dans l'Atlas des énergies de demain. Un hors-série de Courrier international en vente maintenant.
Burger King.
Alors c'était bien chez Burger King?
Super, mais alors impossible de se rappeler le nom du menu. Ah, oh, c'est pas vrai, ça recommence. Léo.
Ah oui, c'est le menu.
Mais si, tu sais, le menu enfant à 4 euros là.
Ah oui, le menu.
Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Menu King Junior avec jouet à 4 euros, prix conseillé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Les tensions sont à nouveau très fortes entre la Chine et Taïwan ce soir. Une délégation de parlementaires américains est arrivée sur l'île. Une visite qui n'était pas prévue et qui doit durer jusqu'à demain. 5 élus du Congrès américain vont rencontrer le président taïwanais. Ces rencontres surviennent seulement quelques jours après la fin de manœuvres militaires chinoises consécutives à la visite de Nancy Pelosi à Taipei il y a 2 semaines. On retrouve en direct de Pékin notre correspondant Sébastien Lebelzig. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Sans surprise, l'armée chinoise réagit ce soir au large de Taïwan.
Oui, écoutez, juste après l'arrivée de ces parlementaires américains, tout à l'heure à Taïwan, 22 avions et 6 navires de guerre chinois sont entrés immédiatement en action. Ils ont été détectés en opération autour de Taïwan. Certains ont franchi la ligne médiane, la démarcation non officielle entre Taïwan et la Chine. C'est la première réaction militaire à cette visite qui, évidemment, pour Pékin, a tout d'une nouvelle provocation. Elle prend de court quand même la diplomatie chinoise qui ne s'attendait pas, il faut le dire, à une telle visite 10 jours seulement après celle de Nancy Pelosi à Taïwan, qui avait mis le feu aux poudres et provoqué de vastes manœuvres militaires et un blocus de l'île de Taïwan pendant quasiment une semaine. Alors la presse ce soir à Pékin tire à boulets rouges sur les États-Unis. Les politiciens américains ne se soucient pas du tout du bien-être du peuple taïwanais. Ce qui les intéresse, c'est de contrôler Taïwan et d'utiliser l'île pour supprimer la Chine. C'est ce qu'on peut lire ce soir dans les journaux ici, comme le Global Times, le quotidien porte-voix du Parti communiste chinois.
Sébastien Lebelzig, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Concernant justement la réaction chinoise ce soir, le scénario d'une invasion de Taïwan semble pour l'instant peu probable pour Marie Holzman. Elle est spécialiste de la Chine contemporaine.
On assiste à un véritable changement d'attitude. Les Américains semblent nous dire que visiter Taïwan, c'est quelque chose qui doit être tout à fait naturel. Évidemment, la Chine ne va pas réagir de façon enthousiaste, mais Xi Jinping, son obsession, c'est le mois de novembre et son maintien en poste pour les 5 prochaines années à venir. Il va certainement mesurer l'impact qu'aurait un retour des menaces contre Taïwan dans sa propre popularité au sein de ses partisans. Et je pense qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin que de recommencer des manœuvres menaçantes autour de Taïwan, mais on ne va pas au-delà d'une ligne rouge qui serait évidemment l'éclatement d'une guerre. Ce serait une catastrophe pour la région, pour le monde et à mon avis pour Xi Jinping aussi.
Marie Holtzmann, spécialiste de la Chine contemporaine, interrogée par Nina Droff.
Autre situation très tendue ce soir, en Ukraine, la menace d'un accident nucléaire plane toujours sur la centrale de Zaporijjia.
Les risques augmentent chaque jour, assure le maire de la ville où se trouve ce site stratégique. Cette déclaration survient alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir tiré très près des réacteurs. Pour Carole Grimaud, fondatrice d'un think tank sur le monde soviétique, les deux camps tentent de brouiller les pistes.
Ce chantage-là nous fait penser bien sûr au chantage qui avait dominé toute la période de Mariupol, de part et d'autre, du côté ukrainien comme du côté russe. On se renvoyait la balle sur les accords de cessez-le-feu avec un risque accru que des réacteurs ou bien que des bâtiments à côté des réacteurs prennent feu et provoquent une catastrophe non seulement pour l'Ukraine mais les pays voisins bien entendu. Maintenant, nous n'avons pas d'informations sur l'origine des tirs. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas d'images satellites de ce qui se passe à Zaporijjia. Les états-majors pourraient certainement clarifier la situation et dire de quel côté sont partis les tirs. On est dans une situation très complexe où finalement, si jamais un accident se produit, il sera bien difficile de savoir qui est véritablement le responsable.
Carole Grimaud, fondatrice d'un think tank sur le monde soviétique, elle était interrogée par Louise Douillet.
Et les nouvelles sont rassurantes pour Salman Rushdie.
L'auteur britannique est sur la voie du rétablissement selon son agent. Deux jours après avoir été poignardé lors d'une conférence, il n'est plus placé sous respirateur artificiel. Sa famille se dit ce soir rassurée. Quant à son agresseur, il a été présenté devant un tribunal. Il plaide non coupable. Toujours à l'étranger, l'incendie d'une église au Caire provoque de nombreux morts parmi les fidèles d'une église copte. Le ministère de la Santé égyptien évoque 55 victimes. Pour l'instant, l'origine de cet incendie reste à déterminer. Il est survenu dans une église située dans un quartier populaire du Caire.
Allez, un peu de légèreté dans ce journal. Quoi de mieux pour se détendre qu'un petit verre de rosé ? Un type de vin que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier.
Oui, plus frais, plus léger que la bière ou le vin rouge, les ventes ont augmenté de près de 10% entre mai et juillet. Notre reporter Margot Faudéré a pu rencontrer des amateurs dans une cave parisienne.
Sourire aux lèvres et jupe d'été, Audrey est une habituée de cette cave à vin. Depuis le début de l'été, elle y fait un stop régulièrement pour acheter une bouteille de rosé.
Pour aller avec un barbecue, ça passe bien, c'est la boisson d'été par excellence. Ça change mes habitudes de vin blanc, la plus rosé cette année. Ouais.
Et Audrey n'est pas la seule à en raffoler cette année. Depuis le mois de mai, un client sur deux qui passe le pas de la porte vient pour du rosé. Candice, caviste dans la boutique, l'a bien remarqué.
Chaque mois, on va avoir à peu près 3 rosés qui sont dans le top 10 des ventes. Côte de Provence, on va avoir rosé Corse aussi, qu'on vend beaucoup ici, et également quelques Languedoc.
Pour elle, pas de mystère, c'est la chaleur exceptionnelle de cet été qui booste les ventes de rosés.
Tout de suite, les gens ne vont plus sur des rouges qui sont très costauds. Ils vont rechercher vraiment la légèreté, puis le côté un peu festif du rosé. La consommation a pas mal augmenté, les gens sortent pas mal. On a un parc juste à côté, donc les gens viennent souvent acheter une petite bouteille et se la boire dans le parc.
En plus d'être rafraîchissant, le rosé est aussi beaucoup plus abordable que d'autres vins.
On va être sur des bouteilles entre 10 et 15 euros, donc on n'est pas non plus sur des tarifs excessifs. Sur des bouteilles de rouge, par exemple, on va plutôt être sur une bouteille avec un prix moyen entre 20 et 30 euros.
Du vin rouge qui, contrairement au rosé, a vu ses ventes diminuer de 8,5% entre mai et juillet.
Le reportage de Margot Faudéré pour Europe 1.
Et le rosé à consommer, bien sûr, avec modération. Allez,
évidemment.
On passe au sport. À nouveau, beaucoup de buts cet après-midi sur les terrains de la Ligue 1.
Et on part tout de suite du côté de l'Allianz Riviera de Nice. Les Niçois, les Strasbourgeois se sont quittés sur un match nul. Un but partout, Frédéric Hélion.
Effectivement, François-Xavier, il va falloir attendre encore côté Niçois et Strasbourgeois avant de décrocher la première victoire de la saison. En Ligue 1, les Niçois avaient pris l'avantage en première période avec un très bon ballon en profondeur de Calvin Stengs pour Amine Gouiri qui a été fauché dans la surface de réparation par Niamsi. Penalty transformé par Andy Delors qui inscrit son premier but de la saison sous les couleurs niçoises. Et puis Strasbourg est revenu en seconde période avec un ballon délicieux d'Adrien Thomasson en profondeur pour Kevin Gamero qui a lobé Kasmer Schmeichel, le porté danois d'un joli extérieur du pied droit. En fin de rencontre, les Niçois ont poussé, mais Sels s'est montré impérial face à Youssef Attal et Schmeichel, le portier niçois, a vu la dernière frappe d'Ajorque passer au-dessus. Nice et Strasbourg restent en deuxième partie de tableau au classement.
Merci beaucoup Frédéric Hélion en direct de Nice. Dans les autres matchs, Reims s'est incliné à domicile des défaite 4-2 contre Clermont. Auxerre et Angers se sont neutralisés 2-2. Toulouse s'est imposé sur la pelouse de 3, 3-0. Score nul et vierge entre Ajaccio et Lens. Lorient, Lyon a été reporté en raison de la clôture du festival interceltique de Lorient. Cette deuxième journée va se conclure ce soir au stade Francis Leblé. Brest-Marseille à partir de 20h45. Match à suivre évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport. Et c'est avec vous, Virginie Fulpin, qu'on va tout savoir.
François-Xavier, je sais que vous avez une légère préférence pour l'Olympique de Marseille. Légère, donc ça tombe bien, on va beaucoup en parler de ce Marseille version Igor Tudor. Comment joue exactement l'OM cette saison? Est-ce qu'Alexis Sanchez, la nouvelle recrue accueillie en rockstar, va jouer dès ce soir? Après la victoire contre Reims la semaine dernière, les Marseillais vont-ils enfoncer le clou ou replonger dans le doute? Le début de réponse, c'est donc à 20h45.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. On vous retrouve donc à partir de 20h. Et puis juste un mot en natation, Analia Pigré, championne d'Europe du 50 mètres d'eau, avec un très beau chrono de 27 secondes 27.
Le retour de l'info, c'est avec vous, François-Xavier Lambert, à 20h. À tout à l'heure. Anthony Kazmarek, le temps, qu'en est-il?
Eh bien, ce sera beaucoup plus calme demain. C'est vrai qu'on a relevé quand même 37 000 impacts de foudre aujourd'hui en France. Ces orages ont été nombreux et parfois virulents. Demain, il restera encore quelques averses orageuses dans un large quart nord-est toute la journée. Sur le centre-Val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté. Mais partout ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies qui seront de plus en plus belles. Au fil des heures, beaucoup de soleil, même de la Provence au Roussillon et du Midi toulousain jusqu'au Pays Basque. Un voile de nuages va arriver par la Bretagne en fin de journée. Puis on aura encore quelques orages sur les relief, notamment les Pyrénées, les Alpes du Sud et la montagne Corse. Les températures seront quasiment partout de saison, voire même encore un peu au-dessus dans le sud. Il fera 22 degrés à Lorient, 25 à Biarritz, 26 à Paris et Bordeaux, 28 à Lyon et à Strasbourg, 31 à Toulouse, 33 à Marseille. Mais j'attire ce soir votre attention sur les journées de mardi et de mercredi. Il est rare que Météo France soit aussi alarmiste, aussi précocement. On attend de violents orages mardi soir entre le Roussillon et la vallée du Rhône. Et mercredi, la journée sera sans doute très pluvieuse, très orageuse. Toujours dans la vallée du Rhône, sur le littoral de la Méditerranée, avec de très gros cumuls de pluie. Et pendant ce temps-là, en Corse, on aura un coup de sirocco avec 36 à 38 degrés et donc un énorme conflit de masse d'air dans le sud-est mardi et mercredi. Donc prudence.
Eh bien, merci beaucoup, Anthony Kazmarek. J'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Vous allez vous coucher là.
Bonne soirée.